L'autre exception, c'est en Égypte. Quand Sadat, justement, avait décidé de signer un traité de paix avec Israël, il fallait trouver des gens qui négocieraient la paix. Donc, normalement, le ministre des Affaires étrangères. Des musulmans ont été pressentis pour ce poste très important, très sensible, les affaires étrangères. Aucun des musulmans contactés n'a accepté de devenir ministre à ce moment-là, sachant qu'il fallait négocier la paix avec Israël. Pourquoi ils ont refusé? C'est parce qu'ils craignaient des représailles de la part des islamistes qui auraient pu leur reprocher d'être de mauvais musulmans pour signer la paix avec l'État d'Israël. Vous voyez, bon. Alors, Sadat, donc, a choisi un chrétien, un copte orthodoxe, comme ministre. C'est quelqu'un qui est devenu très connu ensuite. C'est Boutros Rali. Boutros, c'est son prénom, ça veut dire Pierre Boutros. B-O-U-T-R-O-S. Et son nom est double. De nouveau Boutros, trait d'union, Rali, G-H-A-L-I. Boutros Rali, après ses fonctions en Égypte, est devenu secrétaire général de l'ONU. Alors, Boutros Rali présentait l'avantage d'être chrétien, donc de pouvoir négocier tranquillement avec Israël. Et en plus, second avantage, sa femme est juive. Elle s'est convertie au christianisme, mais elle est juive, donc on pouvait penser aussi que ça faciliterait les choses. Voilà donc deux exceptions modernes, si vous voulez, au principe de la dimitude. Alors, des restrictions au plan de la participation aux affaires politiques. La dimitude concerne aussi la vie sociale. Par exemple, il y a des métiers qui sont interdits aux chrétiens, ou des métiers qui leur sont réservés. Alors, parmi les métiers interdits aux chrétiens, dans un pays comme l'Égypte, les chrétiens ne peuvent pas être gynécologues, par exemple. Parce que, bon, évidemment, ils seraient amenés à soigner des musulmanes, et ce n'est pas possible. Le chrétien est impur, le musulman est pur, pas de contact. Voilà. Alors, oui, par exemple, en Égypte aussi, ça continue de nos jours, il y a des universités qui interdisent l'accès de chrétiens. Lors de mon dernier voyage, attendez, je vais me rappeler, on m'a raconté des choses incroyables. Ah oui, il y a eu un concours pour entrer dans une administration de l'État. Il se trouve que les premiers ont été des chrétiens. Le responsable du concours, on lui a ordonné de rétrograder les chrétiens et de donner les premières places à des musulmans. Donc de changer les notes, vous voyez. Aujourd'hui, il y a quelques mois, ça s'est passé au printemps, ça. Vous voyez où ça peut aller. Donc la vie des chrétiens sur le plan social est très très difficile. Je veux parler de la question religieuse aussi, qui est couverte par la dimitude. Pendant des siècles, les chrétiens, d'abord, n'avaient pas le droit de construire de nouvelles églises. Quand ils construisaient des églises, il fallait qu'elles soient sans cloche et sans croix. Ils n'avaient pas le droit de faire des processions dans la rue. Pas de visibilité. Évidemment, ils n'avaient pas le droit d'annoncer l'évangile. Ça va de soi. Mais d'autres discriminations aussi. En tant que chrétien, lorsqu'ils rencontraient un musulman dans la rue, ils devaient descendre du trottoir pour laisser la place aux musulmans. Oui, ils n'avaient pas le droit de monter à dos de cheval. Le cheval, c'était la monture noble réservée aux vrais croyants, donc les musulmans. Eux, ils devaient monter à dos d'âne. Toutes sortes de mesures comme ça, qui vraiment pourrissaient, si vous voulez, la vie de tous les jours. Alors, et puis même par ailleurs, il y avait aussi donc interdiction de construire de nouvelles églises. Et quand une église tombait en ruine, on ne pouvait pas non plus la restaurer, la réparer ou la reconstruire. Alors, cependant, les choses ont changé, du moins du point de vue formel. À la fin du XIXe siècle, l'essentiel du monde musulman était sous la domination ottomane, donc le sultan qui régnait à Istanbul. Oui, sultan, c'est la dimension politique, et calife, la dimension religieuse. À Istanbul, donc la capitale du monde musulman, sous domination ottomane, il y avait le sultan calife. Alors, sous la pression des nations européennes, le sultan calife a pris un décret instaurant l'égalité de tous les sujets de l'Empire, quelle que soit leur appartenance religieuse. Autrement dit, il a supprimé la dimitude. Ça, c'est sur le papier. Mais dans les faits, les choses ne se sont pas passées comme ça, parce que cette réalité de la dimitude, elle est profondément ancrée dans les mentalités, donc ça n'a pas été vraiment appliqué. Vous savez, vous avez tous entendu parler du génocide arménien, hein, fin du 18e, fin du 19e, début du 20e. Ça a commencé en 1895 et ça s'est terminé en 1915. Oui. Alors, donc, ça a duré un certain temps et ça a commencé bien avant le démantèlement de l'Empire ottoman. Parce que parfois, on dit c'est simplement 1915. Pas du tout. En 1895, Atatürk n'avait pas encore aboli le califat. Donc, ce sont les autorités à la fois religieuses et politiques de l'Empire ottoman qui ont pris des décrets demandant le massacre ou la déportation, les deux, des Arméniens et des autres chrétiens aussi, parce qu'il n'y a pas que des Arméniens qui ont été tués. Alors, il y a des raisons politiques et tout ça, c'est vrai, mais on peut aussi considérer que ces violences contre les chrétiens sont le fruit d'un refus, ou l'expression, d'un refus de certains musulmans d'accepter le décret prônant l'égalité de tous les sujets de l'Empire. Cela dit, l'impôt de capitation, lui, il a été bel et bien aboli et il a complètement disparu de l'univers musulman, en tout cas au Proche-Orient. Même si la dimitude a été abolie de jure, de droit, si vous voulez, de facto, elle s'est maintenue, alors selon des modalités diverses, dans les pays. Il faudrait considérer chaque pays l'un après l'autre pour étudier la situation. Si ça vous intéresse, il y a à la bibliothèque ici mon livre sur les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? J'ai un chapitre bien développé sur la question où j'expose le mieux possible la dimitude et la situation des chrétiens dans chaque pays concerné. Mais simplement là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mesurer le degré de dimitude, eh bien, il faut se référer au degré d'islamisation de l'État concerné. Plus un pays est attaché à son identité musulmane, plus, même si la loi ne le prévoit pas, la société musulmane sera encline à imposer l'État aussi d'ailleurs, à imposer une dimitude de facto, de fait, si vous voulez. Et aujourd'hui, l'Égypte est particulièrement concernée, enfin depuis assez longtemps d'ailleurs, par cette dimitude de facto. Il y a en Égypte sur environ 85 millions d'habitants, entre 10 et 12 millions de chrétiens coptes pour la plupart. Eh bien, ils ne sont pas traités à égalité avec leurs compatriotes musulmans et ils subissent des discriminations absolument dans tous les domaines. Jusqu'à il y a une date très récente. Même pour réparer un robinet de sacristie, il fallait un décret présidentiel. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ne parlons pas de construire une église. Et c'était valable sous Sadat, sous Moubarak aussi. Et maintenant, on va voir avec les changements révolutionnaires ce qui va se passer. Mais enfin, bon, les derniers mois sont assez inquiétants concernant la situation des chrétiens. Alors, vous voyez, dans ce pays comme l'Égypte, la Constitution ne dit rien sur la dimitude. La Constitution dit, il y a un article qui dit que tout citoyen a droit à la liberté, liberté d'expression, liberté de croyance, liberté de culte. Ça, c'est le principe. Mais dans la même Constitution, il y a un autre article qui dit que la charia est la source principale du droit. Alors, on se fonde sur le deuxième article pour réduire à rien ou à moins que la liberté pour les chrétiens. Vous voyez, il y a une ambiguïté là. Et on espère que dans la prochaine constitution égyptienne, on va supprimer cette clause selon laquelle la charia est la source principale du droit. Il y a des pays qui indiquent que en même temps, on respecte la liberté de conscience et de culte, etc., ou d'expression, et en même temps que la charia est la source unique du droit. C'est le cas dans l'Irak de post-Saddam Hussein. Aujourd'hui, en Irak, c'est ça. Voilà. Je voulais dire un principe concernant la construction de lieux de culte. Le principe, c'est le suivant. En principe, excusez-moi, je répète. il n'est pratiquement pas possible qu'une église jouxte une mosquée. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans un pays comme l'Égypte? Il se peut que des autorités de l'église déposent un permis de construire une église, parce que, à strictement parler, ce n'est plus interdit de construire des églises depuis l'abolition de la dhimmitude par le sultan ottoman. Normalement, on peut construire une église. Il faut un décret présidentiel, c'est vrai, mais les autorités ecclésiales déposent leur demande auprès de l'administration. Après, ça remonte. Une fois la demande déposée, forcément, des musulmans vont apprendre cette demande, parce que dans l'administration, c'est pratiquement que des musulmans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'autres musulmans vont acheter le terrain concomitant du terrain appartenant à l'église, et ils déposent une demande de permis de construire une mosquée, et l'autorisation est automatique. Il n'y a aucun critère qui permet d'interdire la construction d'une mosquée. Si bien que, si un jour vous allez en Égypte, ou ceux qui y sont allés, peut-être, il y en a qui sont allés en Égypte, non? Oui? Vous n'avez pas vu le nombre incroyable de mosquées? Il y a longtemps, peut-être?
Non.
Ah non, mais c'est inouï, le nombre de mosquées qu'il y a. Oui?
Non, je vous avoue, je n'ai pas visité les mosquées.
Ah, vous êtes allé voir les pyramides, d'accord. D'accord. La prochaine fois, vous serez... Ah ben oui, ça, oui. Bon, la prochaine fois, vous ferez attention. Le nombre incroyable de mosquées, et plus ça va, chaque fois que je me rends là-bas, je découvre ça. Bon, alors que ça excède évidemment les besoins, il y en a tellement. Voilà, alors la mosquée est là, alors à partir de ce moment-là, évidemment, l'église ne peut plus être construite.